rivières ont besoin d'être protégées. Mais comment y parvenir si on les oublie ? Les humains vivent parfois au bord des cours d'eau sans même y penser. Ils puisent leurs eaux sans les regarder. Pour retisser les liens entre nos rivières et nous, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et la région Bretagne ont lancé en 2021 l'Atlas socioculturel du Belon. D'autres ont suivi, le Lapic, le Léguerre, les Marais de Vilaine et la Rade de l'Orient avec le Scorff, le Blavet et le Terre. Ce sont ces démarches que vous propose de découvrir ce podcast.
Je m'appelle Mado Rabat, je suis architecte et urbaniste et je représente l'association Terre-Lieu. L'association Terre-Lieu est née de l'association de plusieurs architectes et urbanistes aménageurs du territoire qui se sont interrogés sur la notion de médiation entre les habitants et leur territoire. Terre-Lieu, c'est trois pôles d'activité. Une activité liée à la sensibilisation, notamment auprès des jeunes publics, sur l'éco-construction et les stratégies d'aménagement. Un pôle d'animation locale lié à de la concertation au service des projets urbains. Et un troisième pôle, recherche et territoire, qui est celui dont on va parler plus largement aujourd'hui. Le projet pour lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le projet d'Atlas socioculturel des Marais de Vilaine qui est né d'un appel à projet de la région Bretagne pour valoriser le patrimoine en lien avec l'eau, un projet copiloté par Eaux et Rivières de Bretagne et la région Bretagne. C'est un appel à projet pour lequel nous avons été lauréats et qui nous a permis de travailler pendant 2 ans sur les Marais de Vilaine. Alors, ce qui a particulièrement intéressé les élus, c'est la deuxième phase du projet dont on n'a pas encore parlé, qui est la réunion de 2 universités, donc le Master Gestion des Habitats et des Bassins Versants, donc des étudiants en biologie et des étudiants en architecture de l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne. On a proposé aux étudiants de se questionner sur le territoire et de proposer des réponses concrètes à l'aménagement et à la gestion de ces milieux sur 3 territoires ciblés, donc à Bains-sur-Oust, sur le site du transformateur et le site du projet Confluence 2030 à Redon et sur le marais de Gandel. Les étudiants réunis en groupe mixte, donc biologistes et futurs aménageurs architectes, ont proposé différentes manières d'imaginer le territoire en 2100.
L'âge d'or de Redon, donc en 1788, c'est la date à laquelle il est dressé.
Coralie Duveau, chargée de mission patrimoine à la direction vie patrimoniale et vie culturelle à la ville de Redon.
Ce tableau raconte beaucoup de choses. Il raconte notamment ce port fluvio-maritime, c'est-à-dire qu'en fait, la marée remontant jusqu'à Redon, il y avait un avantage commercial qui était non négligeable, c'était que les grands trois mâts qui arrivaient directement de la mer, de l'océan, pouvaient venir jusqu'à Redon. Et donc, on était sur un véritable lieu de transit, puisque après Redon, la marée se faisant plus faible, c'était précisément à cet endroit-là que l'on déchargeait des grands trois mâts sur des petites embarcations pour ensuite aller alimenter le reste de la Bretagne ou du moins dans les terres au bord de la Vilaine. Et donc à cette époque-là, effectivement, Redon pouvait se vanter d'avoir des relations commerciales très très privilégiées avec Rennes, ce qui a largement enrichi la ville. Vers 1850, on a ce canal qui est creusé, ce bassin à flot. On peut voir ça un peu comme une autoroute pour bateau, j'ai envie de dire. C'était effectivement plus facile à naviguer et donc à ce moment-là il y a des grandes transformations qui ont lieu. Ce qui est très, très beau, je trouve, dans ce quartier du port, c'est que c'est vraiment une architecture qui se raconte parfaitement, c'est-à-dire qu'on a côté de la Vilaine, ces maisons d'armateurs qui sont tout à fait typiques de cette période qu'on évoquait tout à l'heure, cet âge d'or qui a vu naître vraiment une élite sociale parmi ces négociants qui ont construit des maisons à la mode de l'époque mais qui étaient aussi fonctionnelles puisqu'il y avait des caves qui desservaient directement les quais. Et puis ensuite, on voit un quartier qui fait volte-face, qui se retourne du côté du bassin à flot dans le siècle qui suit et qui reproduit le même schéma avec une nouvelle élite sociale qui va à son tour construire des maisons mais dans la mode de ce nouveau siècle. Et donc, on a vraiment un quartier qui se raconte et qui se donne complètement à lire dans son architecture.
N'oublions pas qu'historiquement, l'influence de la mer s'opérait jusqu'à Messac.
Anne Lenormand, coordinatrice Natura 2000, est chargée de mission milieu humide dans le service milieu aquatique et biodiversité d'Eau-et-Vilaine, un organisme public chargé de mettre en œuvre et de coordonner la politique de l'eau.
On a quand même, dès le Moyen-Âge, puisque c'est les moines de Redon qui ont commencé à installer un moulin en plein milieu du bief, et c'est le premier quand même obstacle à la continuité écologique qui a été créé dès le Moyen-Âge.
Initialement prévu pour lutter contre les inondations du pays de Redon ainsi que pour réaliser l'assainissement de 10 000 hectares de marais, le barrage d'Arzal a très vite connu une seconde vocation, l'alimentation en eau potable de toute la région, à savoir Saint-Nazaire ainsi que la presqu'île Guérandaise et celle de Ruisse. Des pourparlers sont même en cours actuellement pour fournir de cette eau potable à la région rennaise. C'est M. Dudrenet, président du Conseil général de Loire-Atlantique, qui est également le président de cette institution interdépartementale.
Monsieur Dudrenet, quels sont les trois objectifs principaux de ce barrage d'Arzal?
Le premier, la lutte contre les inondations et la protection des lieux habités, en même temps que la mise en valeur des marais. Deuxièmement, la navigation permettant d'amener des matières pondéreuses à Redon, de développer dans la mesure du possible les industries de Redon et la création de nouveaux emplois. Troisièmement, avec la station du Drézet, l'alimentation en eau potable de toute la région de Saint-Nazaire, la Baule et le Morbihan. Ce sont les trois principaux objectifs.
Mais vous m'avez dit également que la création d'un plan d'eau aussi vaste pourrait favoriser la navigation de plaisance.
Oui, c'est également un objectif qui est déjà atteint.
Monsieur Talureau, ingénieur du génie rural, on est dans les années 50-60, et c'est lui qui a été chef d'orchestre au niveau national d'une politique de valorisation des grands marais de l'Ouest. Alors là, on parle des marais bretons. Donc plus de 40 000 hectares, on parle des marais Poitevin, on parle des marais Charentais, tous ces programmes-là de grands marais de l'Ouest ont fait l'objet de gros travaux de curage. On a réorganisé en fait ces marais pour dans les objectifs de production agricole, hein, de valorisation pour l'élevage. Et les petits marais de Vilaine, 10 000 hectares comparés à tous ces gros, gros marais, étonnamment, ont été englobés dans cette politique nationale. Et M. Talureau était ingénieur à Nantes. Et c'est une conjugaison de rencontres aussi. Jean Dudrenet était président du Conseil général de Loire-Atlantique et maire de Fégréac. Donc je suppose qu'il y a eu des échanges qui ont permis que les marais de Vilaine, tout petit marais comparé aux trois autres, ont pu être intégrés dans un programme national, donc des moyens financiers associés qu'il ne faut pas oublier. Donc on est dans un programme inspiré des Hollandais à l'époque pour valoriser ces grandes zones de marais, et on a été très influencé par des ingénieurs flamands à n'en pas douter. Vu l'organisation de nos marais, si vous prenez une photographie aérienne, vous voyez ce quadrillage, ce maillage de marais avec des larges fossés drainants, c'est vraiment le terme, hein, on est vraiment dans ce programme d'assainissement des marais.
Cette idée de vouloir lutter contre les inondations, c'est très compréhensible de la part des hommes.
Yves Le Bailly, professeur agrégé de géographie, enseignant à l'IUP d'aménagement maritime et littoral à l'Université de Bretagne Sud à Lorient.
Maintenant, est-elle très réaliste? Même si elle a pu être efficace sur certains domaines, notamment dans les remontées des salures des eaux, etc., on peut se poser des questions, parce que s'il avait été vraiment efficace, il n'y aurait pas eu toutes ces inondations en 1995, aux alentours de 2001, et puis la dernière fois. Ça pose la question de la pertinence du barrage. Aujourd'hui, la question qui est posée, mais pas que sur la Vilaine ici, mais sur toute la Bretagne, c'est la rétention des eaux de pluie qui s'écoulent très rapidement à la mer et qui ont vu leur vitesse s'accélérer pratiquement par trois entre les années 60 et aujourd'hui. Donc ça pose la question des comportements et des aménagements qui ont pu être faits sur l'ensemble du territoire. Dans les années 60, une goutte d'eau qui tombait sur le bassin versant du Haut-Meule, élément fluvial du système de la Vilaine, eh bien mettait 8 jours avant d'arriver à la mer, maintenant il en met 3. Donc cette accélération amplifie les crues. Et donc, il faut se poser la question en amont, comment retient-on l'eau? Surtout que la question de la rétention de l'eau va devenir une question cruciale en matière d'alimentation des populations. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la question fondamentale de la reconstitution des haies bocagères, talus majeurs, etc., peut-être pas un bocage aussi dense que précédemment, mais est une question qui se trouve posée à notre société à un moment où les précipitations vont se raréfier et diminuer, on l'estime, à peu près d'un tiers dans les décennies à venir.
Les phénomènes de crue les plus importants, c'est-à-dire les Q10, Q20, c'est-à-dire qui ont une probabilité sur 10 de se produire, sur 20, sur 30 de se produire, là, le barrage, en effet, a ses limites et n'est plus efficace pour limiter l'amplitude de ces inondations. En revanche, il faut constater, malgré tout, que les phénomènes de crue, on parle bien de statistiques, hein, j'en suis désolée, mais c'est la réalité, une probabilité sur 2, sur 3 de se produire, c'est-à-dire les crues les plus fréquentes, là, on constate que l'effet du barrage est efficace. Statistiquement, on regarde de données chiffrées. En revanche, on bouleverse son fonctionnement naturel de zone estuarienne. C'est-à-dire que les amplitudes chutent beaucoup plus rapidement que si on n'avait pas de système de vannage qui évacue les crues. Au regard de l'amplitude maintenant, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je suis plus nuancée. Si on regarde les repères de crues, étonnamment, les crues les plus anciennes, donc celles de 1926, avec celles des plus récentes, il y a très peu de nuances en termes d'amplitude. Et du coup, je nuancerai les effets du barrage d'évolution des crues, mais j'ai fait la même gymnastique que vous en termes de réflexion. Donc je partage effectivement le fait que la disparition des haies, la disparition surtout haies sur talus, des milieux humides en général sur bassin versant, ont la capacité de tamponner, sauf qu'elles tamponnent que dans certaines circonstances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de saturation en eau. Et il y a plusieurs contextes qui font que si les terrains sont totalement saturés en eau, c'est-à-dire après des épisodes de pluie réguliers, de plus d'une semaine, etc., on ne peut plus rien faire. L'eau, elle s'écoule comme sur un toboggan. Par contre, si on a l'image d'une éponge humide, alors là, effectivement, elle peut absorber encore la flotte et ça tamponne sa limite. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'une crue de 1930-1926, son amplitude, eh bien, elle est presque comparable à celle des plus récentes. L'objectif du barrage d'Arzal, c'est bien de stopper l'onde de marée, donc d'empêcher les marées en fait de s'exprimer au-delà du barrage et d'arriver au marais. Donc en effet, c'est la conjugaison des fortes marées avec des épisodes de crues intenses qui amplifiaient les crues et qui provoquaient ces crues créant des dégâts en fait dans les habitations. Et
on le retrouve sur tous les cours d'eau bretons, un épisode de forte marée, de forte pluviosité, de vent violent, notamment de sud-ouest, ça crée inévitablement des débordements qui conduisent à des inondations des villes-ports.
Les réflexions ont été initiées entre les deux guerres, en fait, et on voyait des épisodes d'exode rural et un besoin prégnant de nourrir la population aussi. Enfin voilà, c'était le terme qui était utilisé, de valoriser des espaces qui étaient perdus pour le bon sens de l'époque, en fait. Voilà. Donc les exploitants, fallait leur offrir de nouveaux espaces pour nourrir les animaux, en fait, créer de la production végétale naturelle pour augmenter les cheptels, pour produire davantage de viande et de lait. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut se situer dans la période en fait d'émergence, de réflexion de ce barrage d'Arzal, qui n'était pas le seul en fait. Il faut avoir à l'esprit qu'on parlait d'assainissement d'abord des vallées de la Vilaine et de ses affluents. Donc il y a eu des gros travaux de curage de la Vilaine, mais aussi de ses affluents sur l'Oust, sur l'Isac, sur le Don, sur la Cher, pour retirer en fait extraire la vase en fait qui arrivait avec les marées. L'idée c'était de permettre l'échappement des crues beaucoup plus rapidement et d'assainir, on parlait bien d'assainissement des vallées, avant de s'engager sur des travaux d'assainissement des marais qui visaient à retrouver des espaces utilisés par les exploitants agricoles. Il faut trouver de nouveaux espaces agricoles. Donc on était vraiment dans ce contexte-là. Comme on parlait des usages avec la pêche, les crues, n'oublions pas aussi, j'ai encore des témoignages d'agriculteurs qui me disaient les crues c'est vraiment bien aussi pour l'apport d'amendements naturels et ne l'oublions pas.
Effectivement, effectivement, cette question agricole fait partie des causes justificatives du projet. Dans celles qui ont été données, il y avait le cabotage tout aussi importante à l'époque. On était certes dans un contexte de révolution agraire, hein, avec le rôle de la Bretagne à l'époque de nourrir une partie de l'Europe. Donc toute terre était bonne à prendre. Mais ce que dit ce document que vous nous avez passé en entrée, pour moi c'est la face visible du projet, c'est pas la face cachée. C'est qu'il y avait d'autres raisons derrière. On est dans une période, les années 70, de développement des classes moyennes, d'une société de consommation, d'une société de loisirs. Il faut pas oublier que le rapport Picard, un délégué de la DATAR, prévoyait, sous le gouvernement Pompidou, de constituer des grands ensembles touristiques sur les littoraux. Le littoral languedocien a connu cela. Il ne faut pas oublier non plus que le directeur de la DATAR, à l'époque, était Olivier Guichard, maire de La Baule, et qu'il avait lui aussi son grand projet en tant qu'aménageur, parce que c'était une époque où on concevait l'aménagement d'une manière lourde, technicienne, ce sur quoi nous sommes aujourd'hui revenus, et avait le projet de faire 5 marinas entre l'entrée du golfe du Morbihan et La Baule, avec une des plus grandes qui aurait été le trait du Croisic. Les paludiers ont réagi et c'est de là qu'est née la reconquête des marais salants de Guérande. Mais il y en avait 5, c'était La Baule, les marais de Guérande, c'était Billier, c'était Sucigneau et c'était Le Croisty. Eh bien, il fallait alimenter en eau ces infrastructures. C'était pas d'alimenter Redon, c'était pas d'alimenter la presqu'île guérandaise ni la presqu'île d'Orvis, c'était d'alimenter ces marinas. Vous pouvez imaginer une vilaine sans barrage. Effectivement, maintenant on l'a et on en mesure les effets. Et des effets, alors moi je suis géographe, beaucoup travaillé sur les questions maritimes. Je pars du principe qu'une mer en bon état est le résultat d'actions humaines responsables à terre. Et là, que constatons-nous ? On a évoqué les crues, c'est dommage, mais par exemple, un estuaire, c'est effectivement un lieu de rencontre des eaux douces et des eaux salines. Il y a des phénomènes donc qui sont très riches sur le plan biologique. Il y a des phénomènes de flocculation, c'est-à-dire des échanges d'ions qui conduisent à la précipitation de matières en suspension, et notamment les vases. Et dans tout estuaire, il y a un bouchon vaseux qui se promène normalement. C'est à la fois riche biologiquement et problématique sur le plan morphologique. Mais on voit bien que ce bouchon aujourd'hui n'existe plus.
On avait un estuaire ouvert.
Didier Massé, pêcheur professionnel depuis 35 ans sur la Loire, les marais de Mazerolles et la Vilaine.
Et on rencontrait tout ce qu'on peut rencontrer dans un estuaire ouvert, à savoir tous les poissons migrateurs, anguilles, mulets, flets, alose, lamproie, saumon, truite de mer. Tous ces poissons-là, c'était des poissons migrateurs qui remontent pratiquement plus sur la Vilaine, hein, en particulier le flet, le saumon et la truite de mer, dans la mesure où la qualité de l'eau n'est pas suffisamment bonne pour qu'ils puissent remonter le fleuve tel qu'il était auparavant. Les populations piscicoles marines pouvaient également remonter et venaient aussi, et c'est surtout ça l'intérêt d'un estuaire ouvert, c'était une zone de reproduction et de nourricerie pour le bar, pour le mulet, pour la sole, la plie et le flet. C'était des zones de production énormes en termes de larves de poissons marins.
J'utilise beaucoup pour expliquer les conséquences du barrage d'Arzal une image satellite des années 80-90 sur un boom planctonique dans le Morbras. Un bloom planctonique, ça nous traduit des phénomènes qui sont biologiques et des phénomènes d'hydrologie marine. C'est un apport brutal qui s'opère notamment lors des lâchers d'eau du barrage d'Arzal. Brutal d'eau douce en mer. Cette eau apporte les nutriments qui sont nécessaires à la vie, à savoir des nitrates, des phosphates, de la silice. Cette arrivée brutale donc conduit à une prolifération de phytoplancton. Ce phytoplancton absorbe tout l'oxygène. Et les autres espèces n'en ont plus. Dans les années 2000, vers 2002, un jour, mon père me présente le résultat de sa pêche à pied, des palourdes en seau entier, des coques en seau entier. Et il me dit, elles sont à la surface du sable. J'étais interloqué. On ne fait pas des pêches miraculeuses comme ça. Quelques années plus tard, j'en parle à mon copain Pierre Molot, qui est biologiste marin, spécialiste du plancton, et il me dit, mais c'est un cas d'anoxie, c'est-à-dire une absence d'oxygène totale dans l'eau. Et les coquillages, pour survivre, sont remontés à la surface. Il ne faut pas oublier que le Morbras, jusqu'aux années 60, était considéré comme un des gisements halieutiques les plus riches de la planète après Chiloé. C'est-à-dire cette mer qui va de la pointe du Croisic, Watt, Édic, Belle-Île et la presqu'île de Quiberon. Cette mer était un grand lieu de poissons fourragés, sardines, maquereaux, etc., qui trouvaient là, dans le plancton apporté, enfin produit par les apports de la Vilaine, leur nourriture. Et d'ailleurs, Pierre Molot écrit un article, « La châtaigne de Redon nourrit la sardine de Vilaine ». C'était une métaphore, mais qui reprenait en fait les fondements d'un ouvrage d'un biologiste et ostréiculteur japonais, Atakayama, qui a écrit un superbe ouvrage, « La forêt amande de la mer », qui montre la relation de la terre dans l'alimentation de la richesse halieutique. Cet aspect-là, il est terrible, parce que si vous allez aujourd'hui dans le Mont-Bras, les pêcheurs n'ont plus rien. Les peu de production qu'ils génèrent ne permettent plus toute cette vie qu'il y avait encore dans les années 60, 80 conserveries de sardines autour du Mont-Bras. Deuxième point, qui pour moi est de morphologie marine. Aujourd'hui, le Mont-Bras est totalement envasé. Et cette image satellite que j'aimerais pouvoir vous montrer, elle est très révélatrice de deux choses. Un, les fleuves qui alimentent la façade atlantique, c'est bien sûr la Garonne au sud, mais c'est la Loire surtout, et c'était la Vilaine. Et les fleuves poursuivent leur action en mer, leur ligne ne s'arrête pas à l'estuaire, mais se poursuit, et la diffusion des vases se répartit sur un espace qui va de Brest jusqu'au bassin d'Arcachon. Les vases de Loire étaient repoussés vers le large tant que la Vilaine fonctionnait, et elle-même avait un écoulement régulier. Aujourd'hui, ces vases de Loire, par les courants littoraux, se rabattent sur tout le littoral sud de la Bretagne, et l'envase.
Du côté maritime, le fait de ne plus avoir d'eau douce à arriver régulièrement dans l'estuaire de la Vilaine, eh bien effectivement, a transformé complètement l'écosystème du bassin aval de la Vilaine, bien entendu. Effectivement, l'envasement est constaté, que ce soit par les pêcheurs, par les ostréiculteurs, les mytiliculteurs, tout le monde constate un envasement de toute cette zone-là, évidemment, malheureusement. Et donc, avec la perte de biodiversité liée au barrage, derrière, évidemment, c'est une perte d'activité humaine, que ce soit pour la pêche, l'ostréiculture ou la mytiliculture.
La vase, aujourd'hui, on la voit, gagne les plages progressivement. Ça a été Damgant, puis maintenant la presqu'île de Ruiss. Et progressivement, ce phénomène d'envasement est en train de toucher tout le littoral touristique, celui-là même pour lequel le barrage a été créé.
C'était Rives et Récits, une série de podcasts proposés par les radios de la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec Eaux et Rivières de Bretagne, l'Office français de la biodiversité et la région Bretagne.